C'est la parole à Pierre Manin.
Merci. Je suis bien embarrassé parce que je pensais que, comme d'habitude, j'étais chargé des basses œuvres de mon panel et d'être le critique de Hannah Arendt. Et je me rends compte en fait que, Anissa, vous avez été plus réservé que je ne m'y attendais. Philippe vient d'ajouter encore une ombre au tableau. Donc je suis embarrassé parce que, en effet, mon propos sera tendanciellement, si j'ose dire, très critique et j'aurais préféré qu'il soit le contrepoint d'une assemblée plus positive, mais enfin ce n'est pas moi de dicter à mes compagnons de tribune ce qu'ils ont à dire. En tout cas, il y a au moins un propos que je peux garder dans le registre entièrement positif, c'est, pour répéter ce qu'ont dit Anissa et Philippe, d'admiration en effet pour la synthèse que Philippe Reynaud a proposée de la pensée d'Arendt, synthèse non seulement complète, y compris sur des points très peu connus, en tout cas qui ne m'étaient pas connus, et surtout à mes yeux synthèse équilibrée, à la fois généreuse et sobre, d'une manière qui, je crois, fait le point de façon impressionnante en quelque sorte sur l'ensemble de l'œuvre d'Arendt. Alors bien sûr, j'aurais parfois accepté de la part de Philippe Reynaud des jugements plus sévères, mais je dirais c'est une interprétation qui sont implicites dans le style même de Philippe Reynaud, qui fait montre des qualités d'impartialité et, disons, de sagesse qui font parfois ou souvent défaut à Hannah Arendt. Alors, il me faut commencer par dire que, et là, j'exprime mon expérience, je trouve que c'est une lecture enthousiasmante pour un jeune homme, ou une jeune femme, je parle à l'ancienne. Lecture enthousiasmante pour un jeune homme, parce que Arendt donne confiance dans les pouvoirs de la pensée, dans les pouvoirs de la pensée de s'orienter dans le monde, de comprendre le monde, de faire face aux événements les plus terribles, en gardant en quelque sorte la capacité de les penser. Et cela, je dirais, c'est l'énergie, en quelque sorte, que j'ai puisée il y a bien longtemps dans ces origines du totalitarisme que j'ai découvertes lorsque Arendt n'était vraiment qu'un nom, ou même pas un nom, en France. Bref, Hannah Arendt est l'auteur qui donne plus brillamment que quiconque, je crois, l'impression de, à la fois, d'avoir la longue expérience des choses modernes avec la continuelle lecture des anciennes. Vous savez que c'est ce que réclame Machiavel dans la Dédicace du Prince. Et à coup sûr, Hannah Arendt nous donne ce sentiment. En même temps, et ici commence le contrepoint qui va occuper, hélas, l'essentiel de mon propos. En même temps, je ne crois pas en effet que sa pensée relève de la philosophie politique. Alors, je sais bien qu'elle-même a prévenu l'objection et elle dit qu'elle fait autre chose, mais elle fait autre chose et mieux que la philosophie politique. Donc, elle fait, ou elle prétend faire, et c'est ainsi qu'elle est comprise, une philosophie politique qui enfin comprend la politique. Alors, pourquoi je ne pense pas que ce soit une philosophie politique? D'abord, je dirais que sa lecture, pardonnez-moi ce jugement, que sa lecture ne me paraît pas éducatrice. Elle est excitante, elle est passionnante, elle est instructive, elle donne à penser, certainement. Éducatrice, c'est-à-dire rendant à la fois non seulement plus intelligent, ça nous aide à être plus intelligent, mais plus sage. Celui qui a passé de longues années à la lire, je ne crois pas. Il y a un signe, vous me direz, il ne faut pas se fier aussi, mais il y a un trait qui m'incite à penser qu'elle est difficilement éducatrice, c'est qu'elle n'est jamais ennuyeuse. Et je crois que c'est mauvais signe. Montaigne dit, personne n'ose le dire, mais je trouve traînant, dit Montaigne, les dialogismes de Platon. Oui, bien sûr. Si nous sommes sincères, nous aussi, nous les trouvons traînants, les dialogismes de Platon. Et Platon est un éducateur. Hannah Arendt ne nous ennuie jamais. Et une des raisons pour lesquelles elle ne nous ennuie jamais, un des aspects, c'est, je dirais, quelque chose comme un sublime continu, qui tient à son art de la citation. L'usage, par exemple, de notre Héraclite provençal, n'est-ce pas, vous vous souvenez tous, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Expliquez, commentez. Cet usage oraculaire de la poésie, ou cet usage plutôt de la poésie oraculaire, ne me paraît pas contribuer à la clarté de la réflexion politique. Elle est assertorique, d'autre part. Elle est tranchante. Elle n'a jamais de doute. Et je ne pense pas qu'elle apprenne à douter, à dialectiser. Elle ne donne jamais l'impression d'avoir rencontré ce que les Grecs, pourtant, appellent une aporie. La liberté, c'est ça. L'autorité, c'est ça. La révolution, c'est ça. Et même l'amour, c'est ça. Enfin, le traitement des auteurs. Enfin, je reprendrai, je généraliserai ce que Anissa a dit à l'instant. Hannah Arendt et les auteurs, c'est un peu, pardonnez-moi cette familiarité, comme le poulet du dimanche quand j'étais petit. Prendrais-je l'aile ou la cuisse? En tout cas, avec Hannah Arendt, on n'a jamais la volaille entière. Elle prend le morceau qui l'intéresse. Elle en fait un usage brillant, extrêmement brillant, pour ses propres fins, sans se soucier le moins du monde de montrer comment ce qu'elle retient se rapporte à ce qu'elle écarte. Montesquieu, Aristote, ils sont à sa merci. Voilà mes trois objections. L'usage de la citation oraculaire, le registre tranche-montagne, enfin le traitement arbitraire des auteurs. J'en viens à sa politique. Ce que je vais dire n'entame en rien la pertinence de tout ce que dit Philippe Reynaud dans ses présentations. Certainement, Hannah Arendt nous apprend beaucoup, propose des vues non seulement brillantes, mais encore une fois qui donnent à penser, des vues pénétrantes. Mais le problème avec elle n'est pas cette page ou cette phrase ou ce chapitre. Le problème, c'est précisément l'ensemble de sa pensée. Et c'est cela qui nous permet ou nous oblige à mettre en cause son statut de philosophe politique. Sur la politique, elle se donne tout de même, me semble-t-il, beaucoup de facilité. Elle distribue l'éloge et le blâme sur toute chose, mais elle n'accepte de responsabilité pour rien. Ni pour le passé, ni pour l'avenir. Alors le passé, on le sait bien, c'est la cité. Alors, nous savons qu'Hannah Arendt récuse Platon, mais la cité, la reine, la police, qu'est-ce que c'est sinon une idée platonicienne? Une idée platonicienne en ce sens qu'elle est perdue pour nous, trésor perdu, mais sur la base de laquelle elle déverse le mépris sur les développements ultérieurs et en particulier sur la politique et la société moderne. Je veux bien que au nom d'une idée très stylisée de la liberté ancienne, on déplore la chute en social, dans la préoccupation pour les pauvres, dans la lutte des classes. Mais enfin, il est évident que si on sépare, on soustrait de l'action politique la question sociale, évidemment, les choses deviennent tout de même beaucoup plus faciles. L'avenir, il est très difficile de deviner quelle perspective Arendt ouvre. L'expérience des conseils, l'esquisse d'une république fédérative, quelques suggestions, mais surtout la critique impitoyable, unilatérale de l'État-nation souverain, de préférence sur le modèle français, qui évidemment nous donne l'axe du mal, nationalisme, impérialisme, totalitarisme. Soit, mais la cité grecque, trésor perdu, l'expérience des nations européennes, axe du mal. L'avenir, une action qui doit rompre sans règle une fatalité d'absorption dans le social, qui doit rompre ou ne pas rompre, ou rompra ou ne rompra pas. Quel guide peut-on trouver dans une pensée qui juge le passé, le présent et l'avenir sans en quelque sorte accepter de responsabilité, c'est-à-dire de véritablement considérer sérieusement dans quelle mesure ces règles, les règles de la vie ancienne ou les règles de la vie moderne peuvent être acceptées, réformées ou alors renversées. Si la vie humaine est action, il me semble que quelqu'un qui veut placer au centre de la vie humaine l'action doit tout de même nous suggérer quelques guides pour l'action. Bref, cité impossible, nation inacceptable, qu'est-ce que nous faisons? Enfin, sa philosophie. Je partage entièrement son point de départ. D'ailleurs, c'est le point de départ du. C'est la citation par laquelle Philippe ouvre son essai introductif concerne ce point, sa citation concernant la place de l'action dans la vie humaine, le propre de l'homme, c'est l'action. Ni l'animal, ni le dieu n'agissent. Et en effet, elle a un sens très vif, et je crois très justifié, que nous avons perdu le sens de l'action, qu'à un moment, dans le développement de la philosophie moderne, le point de vue théorique l'a emporté sur tous les autres points de vue, que sur l'action même, nous avons adopté un point de vue théorique. C'est pour ça qu'elle dit très justement que les modernes, ils espèrent à chaque génération, en quelque sorte, une nouvelle philosophie politique, et qu'est-ce qu'ils ont? Une nouvelle philosophie d'histoire. Parce que la philosophie d'histoire permet de regarder l'action, les actions humaines, comme un film, comme un panorama. La philosophie d'histoire préserve la suprématie du point de vue théorique sur l'action. Donc, je trouve que son diagnostic est parfaitement juste, parfaitement pertinent, et elle le développe, elle le fait également, de façon, cette fois-là, à mon sens, parfaitement convaincante. Et elle ajoute que, en somme, nous ne parviendrons à la clarté sur notre condition et à la clarté sur la politique que lorsque nous aurons recouvré une véritable intelligence de l'action. Et là encore, je crois qu'elle a Entièrement raison. Entièrement raison. Et ce sentiment, d'ailleurs, en ce sens aussi, elle partage, ce n'est pas une idiosyncrasie d'Anna Arendt, elle partage une appréciation qui est celle aussi bien de Heidegger, bien sûr, mais aussi de Wittgenstein, sans doute, en tout cas de ses disciples anglais, les néo-aristotéliciens de Cambridge, de beaucoup de philosophes du XXe siècle qui se rendent compte en somme que ce que on ne sait comment, on ne sait quand, mais les résultats sont là, la pensée a laissé filer l'action. Et d'une certaine façon, son intérêt pour le totalitarisme est lié à cela, dans la mesure où les actions démesurées du totalitarisme, à tous égards démesurées, ce sont les actions inhumaines d'agents, d'acteurs, de sociétés, de groupes qui ont perdu tout sens de ce qu'est une action humaine. Bon. Sur tous ces points, je trouve que Arendt, est persuasive, et je crois que c'est cette base, solide, qui en quelque sorte gage et rend au moins plausible ces développements philosophiques, anthropologiques, sur la description de l'homme, de la condition humaine. Mais autant le diagnostic est me semble-t-il juste, autant le traitement, la manière dont elle cherche à nous rendre enfin l'action pensable, je trouve que cela est très décevant. Et cela est très décevant pour les raisons que nous avons déjà dites. Elle ne fait pas bon usage, elle ne fait pas usage en vérité de la philosophie grecque qui lui est pourtant familière. Elle ne se soucie pas d'apprendre d'elle. Elle conteste l'avantage que la philosophie donne à la vie théorique, soit. Mais si la philosophie a conçu la vie théorique, si Platon et particulièrement Aristote ont conçu la vie théorique comme vie distincte de et supérieure à la vie politique, c'est qu'elles ont d'abord élaboré la notion de vie pratique, de vie active et de science pratique. C'est une chose simple à dire, mais la notion de praxis, la notion de science pratique n'aurait pas été disponible sans la philosophie grecque. Et je trouve le geste est un petit peu violent de s'emparer de l'élaboration d'Aristote en congédiant Aristote au motif qu'il a fait aussi, qu'il a élaboré aussi la notion de vie théorique. Et la question à laquelle je reviens toujours à propos d'Arendt, c'est comment enthousiaste, comme semble l'être de la philosophie grecque, a-t-elle pu faire si médiocre usage de la science pratique d'Aristote? Anna Arendt a une notion extrêmement, je dirais, emphatique de l'action. Mais, ultimement, assez pauvre, C'est une notion esthétique, presque théâtrale. L'action pour un arête, c'est la manifestation de l'individualité dans l'espace public, l'individualité de l'agent dans l'espace public. Elle est inséparable de la quête de la reconnaissance et de la gloire. Et sur ce point, je crois que la critique de Castoriadis que mentionne Philippe dans son essai introductif est pertinente. Un arrêt majeur annexait le rôle de la gloire dans la cité grecque. En tout cas, elle montre très peu d'intérêt pour des choses aussi tout de même centrales pour l'action, elle montre peu d'intérêt pour la délibération, pour les vertus de justice et de prudence, pour le syllogisme pratique. Que sais-je ? Donc, je crois que, finalement, elle nous aide peu à recouvrer la compréhension de l'action. Elle nous fait sentir plus vivement et peut-être plus douloureusement notre désarroi devant l'action, notre incapacité à la penser adéquatement, mais je ne crois pas qu'elle ait beaucoup contribué à éclairer notre action, à nous donner une idée plus ferme de ce que peut être la justice parmi nous, de ce que peut être la prudence parmi nous, de ce que peut être la raison qui accompagne l'action, la raison droite qui accompagne l'action. Enfin, et j'en terminerai avec cela, pour moi, le centre du mystère arendtien, ou alors le comble de sa désinvolture et de son arbitraire, c'est sa fameuse proposition selon laquelle la philosophie politique ignorerait la pluralité humaine. Je n'ai jamais pu comprendre ce qu'elle veut dire par là. La philosophie ne connaîtrait que l'homme et pas les hommes, dit-elle. Aristote ne parle que de cela. Il ne parle que de la pluralité. Pluralité des parties de la cité, avec plusieurs partitions d'ailleurs, qui se mêlent et se croisent. En tout cas, lui n'oublie pas la division entre les riches et les pauvres. Pluralité des parties de la cité, pluralité des parties de l'âme. La cité, telle qu'analysée par Aristote, c'est un mécanisme extraordinairement raffiné pour tenir ensemble la pluralité humaine, pluralité des natures, pluralité des conditions sociales, pluralité des activités, pluralité des vertus. Là, tout simplement, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Et enfin, l'idée de l'homme, cette idée unique, synthétique, qui nous fait perdre la pluralité, Hannah Arendt en a besoin. Qu'aurait-elle pu faire ? Comment aurait-elle pu simplement commencer à dire sa pensée sans avoir à sa disposition la définition aristotélicienne de l'homme comme animal politique et animal doté du logos? Cette définition synthétique, toute la pensée d'Arendt repose sur cette proposition philosophique. Donc, là encore, je ne comprends pas. Et c'est sur cet aveu de perplexité que je j'attends l'éclaircissement du président Philippe.